بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالون جيتا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de cet assis dans cette nuit du 21 Jumada Tania en l'an 1441, qui correspond au 15 février 2020, pour un troisième cours sur les fondements de la foi. Nous nous sommes arrêtés dans le troisième paragraphe de l'introduction du Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. قال رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جناته والدين الإسلامي عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك يأمر بالصدق وينهى عن الكذب يأمر بالعدل وينهى عن الجور ويقول رحمه الله العدل هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات وليس العدل المساواة المطلقة كما ينطق به بعض الناس حين يقول دين الإسلام دين المساواة ويطلق فإن المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله. قال رحمه الله والإسلام ودين الإسلام يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال دي رحمة الله عليه La religion islamique, c'est à la fois une croyance et une législation. Et il est complète dans l'un et l'autre de ses aspects. Dans l'un et l'autre de ces deux aspects. Il dit, rahimahullah, cette religion musulmane ordonne l'unicité d'Allah et interdit le polythéisme. Et il ordonne la véracité et interdit le mensonge. Il ordonne l'équité et interdit l'injustice. Et l'équité, comme il l'a expliqué, rahimahullah ta'ala, au marge de la page, il dit, c'est l'égalité entre les choses identiques et la différenciation entre les choses différentes. L'équité n'est pas l'égalité absolue, comme le disent certaines personnes quand ils disent la religion musulmane est une religion de l'égalité de manière absolue. En effet, l'égalité entre les choses différentes est une iniquité que l'islam ne prône pas, mais réprouve bien au contraire. Il dit, rahimahullah, la religion musulmane ordonne la loyauté et interdit la perfidie, et il ordonne la fidélité et interdit la trahison, et il ordonne la bonté envers les parents et interdit l'ingratitude envers eux. Il ordonne d'entretenir les liens de parenté et interdit de les rompre. Il ordonne le bon voisinage et interdit de causer du tort à son voisin. En un mot, l'islam ordonne toutes les bonnes mœurs et interdit toutes les mœurs viles. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset que Cheikh a cité ici dans Sourate An-Nahl, verset 90, « Certes Allah commande l'équité ». La bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez et j'ouvre une parenthèse pour nous rappeler que l'islam, akhal islam, c'est la religion de tous les prophètes alayhi salatu wassalam et de tous les messagers, de Nuh alayhi salatu wassalam et Muhammad alayhi salatu wassalam. فاسمع لقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فالإسلام دين الأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم قلت فرعون الله سبحانه وتعالى دون سورة يونس où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset cité ici raconte-leur l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam quand il a dit à son peuple ô mon peuple c'est mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas ce que vous voulez faire de moi. Puis décidez et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Il m'a été commandé d'être des nombres des soumis et d'être des nombres des musulmans des soumis à Allah Azza wa Jal. Ibrahim كذلك كان دينه الإسلام قال عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام était aussi musulman et il a ramené l'islam à son peuple et il faisait partie des nombres du soumis à Allah Azza wa Jal, comme il est stipulé dans le verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Et c'est ce que recommande Ibrahim à ses fils, de même Yaqub alayhi salatu wassalam. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point autrement qu'en soumis à Allah, qu'en musulman, qu'en étant musulman, c'est-à-dire qu'en étant soumis à Allah Azza wa Jal. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Et il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement musulman, il était entièrement soumis à Allah, il n'était point du nombre des associateurs. Et Moussa alayhi salatu wassalam kana min al-muslimin. Qala azza wa jall wa qala Moussa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Moussa alayhi salatu wassalam faisait partie des soumis à Allah et faisait partie des musulmans. Il a dit à son peuple, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Donc si vous êtes musulman, dans la traduction approximative du verset ici, Isa كذلك كان مسلما. قال عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Isa alayhi salatu wassalam est venu vers son peuple aussi avec l'islam et il était des mondes, des nombres des musulmans salawatu rabbi wa salamu alayhi, comme il est stipulé dans la traduction approximative du sens du verset où il est dit et puis quand Isa ressentit la mécréance de leur part il dit qui sont mes alliés dans la voie d'Allah, les apôtres disent nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis, et sois témoin que nous sommes musulmans, que nous sommes soumis à Allah. وكذلك محمد جاء بالإسلام وجاء بالرسالة الخاتمة. قال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Il en est de même de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est venu avec l'islam et avec le dernier message qui clôture toutes les révélations et toutes les religions. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset concernant Muhammad alayhi salatu wassalam, dis-leur, dis, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui accomplissant la religion sincèrement pour lui. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans, le premier des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, c'est la seule religion qu'Allah acceptera. C'est la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera le jour de la résurrection. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci, et quiconque désire une religion autre que l'islam, il ne sera pas accepté de lui, et dans le delà, il sera parmi les perdants. Donc l'islam, dans son sens général, c'est la religion avec laquelle ont été envoyés tous les messagers, alayhi salatu wassalam. L'islam qui signifie la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, où nous vouons le culte exclusivement, et d'une façon spécifique, l'islam c'est la religion avec laquelle Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion de Muhammad alayhi salatu wa sallam qui est venue abroger toutes les religions et qui est venue parachever la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc après l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah n'acceptera aucune autre religion de l'humanité en dehors de celle avec laquelle il a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses croyants soumis de ne mourir que dans l'islam, que dans la soumission totale à Allah azza wa jal. Qala subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La traduction approximative du sens de ce verset, ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant musulmans, qu'en étant soumis à Allah. Et cet islam, nous devons le comprendre d'une compréhension saine et authentique, comme l'ont compris les nobles compagnons Ridwanullah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection. Et il est obligatoire de le prendre de sa source, le livre d'Allah, et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension du pur Christ sallallahu alayhi. Et là, on va donner un peu de détails concernant ces qualités de l'islam qu'a cité Cheikh rahimahullah. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الدين الإسلام يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le cours de ce Saint-Mère-Zéro-Corde, Cheikh Al-Utaymiyyin a dit, la religion musulmane ordonne l'unicité et interdit le polythéisme. Comme il dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, قَالَ عَزَّ وَجَلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Et comme il dit ce verset, où il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset, ô gens, adorez Allah, votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, atteindriez-vous taqwa? Taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. C'est lui qui vous a stabilisé la terre pour vous comme lit, et le ciel comme toit. C'est lui qui précipite la pluie du ciel, par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez tout cela. Méditez à l'islam. Ce verset, le 21e verset dans Sourate Al-Baqarah, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité au début de cette sourate certaines caractéristiques du Coran et certaines qualités des croyants et un certain nombre de défauts qui sont les caractéristiques des mécréants et des hypocrites, arrive tout de suite, après cela, le premier ordre aux humains et aux jeunes. Et la première interdiction, le premier ordre, le monothéisme. La première interdiction, l'interdiction de l'associationnisme, l'interdiction du polythéisme. Ce qui prouve, disent les savants, l'importance du monothéisme et qu'elle est la plus importante obligation à laquelle il faut donner une importance particulière et aussi prouve aussi le danger de l'associationnisme duquel il faut faire très attention. وقال رحمه الله والدين الإسلامي يأمر بالصدق وينهى عن الكذب. Il a dit رحمه الله تعالى, la religion musulmane ordonne la véracité et interdit le mensonge. قال الله جل في علاه, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Et la preuve pour cela, le verset qui dit, ô vous qui avez cru, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit cela, ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. Frère Allah subhanahu wa ta'ala, la véracité oriente vers taqwa. Et taqwa emmène vers le paradis. Et dans un hadith authentique chez Tirmidhi ou autre, le messager a dit, vous devez être véridique. Car la véracité guide vers le bien et le bien guide vers le paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique et a cherché à être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme véridique. Et il a dit, alayhi salatu salam, et attention au mensonge, car le mensonge entraîne vers la turpitude et la turpitude entraîne vers l'enfer. Et l'être ne cesse d'être menteur jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme menteur. Naam akhal islam. Et ce qu'une œuvre qui est basée sur le mensonge peut amener au succès, au prévaloir à la personne des récompenses chez Allah. Certes non, jamais de la vie. Car ce qui est basé sur du mauvais, il est mauvais. Wa qala rahmatullahi alayhi. الدين الإسلامي يأمر بالعدل وينهى عن الجور. Il a dit رحمه الله, la religion musulmane ordonne l'équité et interdit l'injustice et l'équité. Et interdit l'injustice. Et l'équité, comme il a dit رحمه الله, c'est l'égalité entre les choses identiques. Et la différenciation entre les choses différentes. L'équité, ce n'est pas l'égalité absolue comme le disent certains. Quand ils disent la religion musulmane est une religion d'égalité de manière absolue. En effet, l'égalité entre les choses différentes est une iniquité que l'islam ne prône pas, mais réprouve au contraire. Prendre par exemple ceux qui prônent l'unicité des religions, hein, et qui mettent à pied d'égalité toutes les religions. Ceci, c'est une iniquité. Comment mettront à pied d'égalité l'unicité avec son contraire, le polythéisme et l'association? Et la preuve de l'équité dans l'islam, qawlullahi azza wa jal, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha'ani al fahsha'i wal munkari wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkaroun. La preuve est ce verset, dont la traduction approximative nous dit ceci. Certes, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Sa'di rahimahullah a dit, l'équité qu'Allah a demandé, c'est l'équité envers son droit et envers le droit de ses serviteurs. Et l'équité en cela consiste à ce que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala s'acquitte complètement des droits, en s'acquittant, en accomplissant ce que Allah lui a fait obligatoire, que ce soit les obligations de l'argent ou les obligations de son corps et tout ce qui compose, tout ce qui la compose parmi ses droits et toutes les composantes des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des droits du si soumis. Il doit se comporter avec une complète équité avec toutes les créatures. Et il a dit, rahmatullah alayh, l'équité est obligatoire. L'équité est obligatoire. La bienfaisance est surrogatoire. Comme le fait d'aider les gens avec l'argent, ou avec le temps, ou avec le corps, ou avec la science, et les différentes autres aides. La bienfaisance englobe aussi le fait de bien agir avec les animaux, consommables et non consommables. Fin de citation dans l'interprétation de Sa'di rahmatullah alayh du verset A dans Sourate Nahl, verset 90. Et l'équité à l'Islam, c'est le contraire de l'injustice. Et l'injustice, ce sont des ténèbres le jour de la résurrection, comme il est stipulé dans le hadith du prophète alayhi sallatu salam. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الدين الإسلامي يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة. الذي رحمه الله la religion musulmane ordonne la loyauté et interdit la perfidie. قال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. La traduction approximative du sens de ce verset, certes Allah vous ordonne de rendre les dépôts, c'est-à-dire tout ce que les gens vous ont confié, d'être loyal et de le rendre comme ils vous l'ont confié. Tout ce qui est dû à autrui, même la parole, c'est un dépôt. La personne qui te parle, qui dit ceci, tu le gardes pour toi, c'est un dépôt. Tu dois être loyal et ne pas le divulguer. Donc, certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts, hein, à l'oreille en droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Al-Bukhari rapporte, ainsi que l'imam Muslim, rahmatullahi alayhim, selon Abu Huraira, que le messager a dit, trois caractéristiques font partie du signe de l'hypocrisie. Quand il parle aux gens, il ment. Et quand il promet, il ne tient pas à sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il n'est pas loyal au niveau du dépôt. Quand tu lui confies quelque chose, quand on lui dépose un dépôt, il est déloyal, il est perfide. Et selon Amr ibn al-As, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre tous de sa sainte miséricorde, dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le prophète a dit, celui qui a ces quatre caractéristiques, c'est un pur hypocrite. Et celui qui en a une, il a une caractéristique de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Quand on lui confie un dépôt, Même une parole, c'est un dépôt que la personne te confie, te dit garde-la pour toi. Quand on lui confie un dépôt, il est déloyal vis-à-vis de ce dépôt. Et il est perfide. Et quand il parle aux gens, il ment. Et quand il tient un engagement, il le trahit. Et quand il se dispute, il change le vrai par le faux et le faux par le vrai. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Mais ici, à l'islam, il est obligatoire qu'on assimile ce point et qu'on y fasse très attention. L'hypocrisie, c'est les savants et de deux sortes. L'hypocrisie au niveau des actes et l'hypocrisie au niveau des croyances. النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. L'hypocrisie au niveau des croyances, la personne fait croire la soumission à Allah, fait croire et montre l'islam, mais il cache la mécréance dans son cœur. Celui-là, il est musulman dans l'apparence, mécréant dans son intérieur. Et s'il meurt dans cette situation, il est dans le plus bas fond de l'enfer. Comme il est dit dans le verset, « قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Et comme il est dit dans le verset, dans Sourat Nisa, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, les hypocrites seront certes au plus bas fond de l'enfer, et tu ne leur trouveras jamais de cet honneur, sauf ceux qui se repentent, qui s'amendent et s'attachent fortement à la religion d'Allah et accomplissent la religion exclusivement pour Allah. Ceux-là seront avec les croyants. Et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Quant à l'hypocrisie au niveau des actes, il y a certains actes de l'hypocrisie qui sont cités dans les hadiths cités auparavant. Ce sont des caractéristiques blâmables, mais cette catégorie, disent les hommes de science, ne sort pas de l'islam. Mais il est obligatoire de s'en repentir et de s'en débarrasser. Donc, l'hypocrisie est de deux catégories. Une hypocrisie au niveau des croyances, une hypocrisie au niveau des actes. Et si tu veux, tu peux dire l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. La majeure fait sortir de l'islam et la mineure ne le fait pas. Hein? Ou tu peux dire l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam, celle qui concerne les croyances, et l'hypocrisie qui ne fait pas sortir de l'islam. Hein? Quant à l'hypocrisie des actes, qui est l'hypocrisie mineure, qui ne sort pas de l'islam, il y a plusieurs sortes. Comme le fait de parler aux gens et de mentir. Comme le fait de promettre et de ne pas tenir sa promesse. Comme le fait quand on confie quelque chose à quelqu'un, un dépôt, il est déloyal vis-à-vis de ce dépôt. Même quand on lui confie une parole, on lui dit, cette parole tu ne la divulgues pas, tu dis à personne. Ça fait partie, hein, du dépôt, hein, qu'on n'a pas respecté. Et quand il s'engage, il trahit son engagement. Il ne tient pas son engagement. Et il n'est pas digne de l'engagement qu'il a tenu. Et quand il se dispute, il le fait de façon qui rend le faux vrai et le vrai faux. Il change complètement les situations. ونتأمل في هذا الأمر الإلهي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Et qu'on médite cet ordre divin dans ce verset où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, Allah vous ordonne, hein, vous ordonne de remettre les dépôts aux ayants droit. C'est quoi le contraire de la loyauté concernant les dépôts? C'est la perfidie. C'est la trahison, c'est le fait d'être déloyal vis-à-vis du dépôt qu'on t'a confié, hein? Et c'est une hypocrisie au niveau des actes. Et au niveau des paroles aussi, la personne il vient et te confie quelque chose sur sa personne, sur sa famille, parce qu'il a confiance en toi. Ou des fois, il arrive entre les femmes, il a une confiance en une sœur. Et il se plaint de certains défauts de sa belle-mère. Et celle-là, il entend cela, il le prend, il va rapporter directement à la belle-mère de la fille. Qu'est-ce que ça va causer? Hein? Dans certaines histoires, de certains, ça a failli arriver au divorce. Alors que la sœur avait quelque chose de gros sur le cœur, il faisait confiance à une personne, à une autre sœur, il lui a parlé. Pour se soulager un petit peu. Et l'autre a pris directement les paroles et là, il les a amenées à la belle-famille. Hein? Regarde ce que ça peut faire après. Et ça, c'est agir déloyalement et ne pas être loyal vis-à-vis des paroles qu'on t'a confiées. Parce que cette personne ne te faisait pas confiance et t'aurait raconté ses misères. Abedin. Hein? Faut faire très attention parce que des fois, les gens, ils nous confient des paroles. Il faut être digne à l'islam. Il faut être loyal et respecté. Et être à la hauteur de la confiance que la personne a placée en toi. Et tu as à méditer le jour où notre messager allait quitter la Mecque pour Médine, pour accomplir sa hijra, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Comment il était digne de confiance, alayhi salatu wassalam? Et comment il était loyal avec les mécréants, hein, qui le maltraitaient et maltraitaient aussi ses nobles compagnons. Et comment il était loyal avec ces mécréants qui lui ont confié des dépôts, des choses de valeur. Et au moment de partir de la Mecque, il a délégué à Ali, hein, la situation de remettre chaque chose à la personne, hein, qui lui a confié. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Et Ali a accompli la mission que lui a confié le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Regarde alors que lui et ses nobles compagnons étaient maltraités. Où sommes-nous de cette noblesse de rapport et de loyauté? Regarde combien de patrons, ils font confiance à quelqu'un. Ils lui confient des tâches sensibles. Ils trahissent leur confiance. Combien de chefs de chantier s'appuient sur la confiance de quelqu'un? Hein? Ils trahissent sa confiance. Hein? Ils n'accomplissent pas les choses comme ils doivent être accomplis. Et comme il l'a promis. Hein, c'est aussi des dépôts duquel nous devons nous acquitter. Combien, hein, leurs mains les démangent. Ils volent des trucs dont, hein, dans l'usine, dans la société, dans ou autre, etc. Ils disent, ce n'est qu'un mécréant. Et hein, qu'un mécréant, il n'a pas de droit. Où il est l'amana? Où il est la loyauté? Où il est le respect, hein, la dignité? Où il est la conformité avec ce qu'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Et combien aussi, à qui a été confié de l'argent, ils ne l'ont pas rendu? Hein? وقال رحمة الله عليه والدين الإسلام يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر إلى ذي رحمة الله عليه الإسلام أفضل في دلتي أن تغدل تخيزه قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى ذي دون الفرسي دون الترادكسيون أبكسماتيف دي سونس دي فرسي أو فو كي أفي كرو acquittez-vous fidèlement de vos engagements. Hein? Tu as pris un engagement, peu importe avec qui tu l'as pris, avec un juif ou avec un chrétien ou avec un zoroastrien ou avec un musulman, tu dois être à la hauteur de ton engagement et de le respecter. قال عز وجل وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, acquittez-vous fidèlement de l'engagement, car on sera questionné sur les engagements. Hein? On sera questionné sur nous. Regarde les nobles compagnons comment ils s'acquittaient, ils respectaient les engagements. Hein? Tu ne peux pas transgresser l'engagement. Hein? Et nous devons suivre leurs pas. Nous avons vu auparavant que parmi les choses qui font partie de l'hypocrisie, c'est le fait de ne pas être loyal et de ne pas respecter les engagements à n'importe quel niveau. Que ce soit les engagements pris pour un travail, ou avec un individu quelconque, ou avec un État, ou une société, la trahison et la déloyauté et la perfidie font partie des actes de l'hypocrisie. قال رحمه الله والدين الإسلامي يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق. Il a dit رحمه الله et la religion musulmane ordonne la bonté envers les parents et interdit l'ingratitude avec eux. Et interdit l'ingratitude envers les parents. قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ton Seigneur a ordonné de lui réserver le culte exclusivement et d'être bon avec les parents si l'un d'eux ou tous les deux ont atteint l'âge de vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis jamais ouf, une parole, ouf. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur de nobles paroles respectueuses et de l'humilité envers eux. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Médite à l'islam, le droit des parents, et médite son importance. Allah, dans ce verset, comme dans d'autres versets, l'a cité tout de suite après son droit. Donc combien de versets il est cité juste après le monothéisme, le droit des parents? Et quand un jeune, il médite cela, quand un jeune a demandé au messager d'Allah de partir pour le combat sur le sentier d'Allah, le messager lui a dit, est-ce que tu as des parents? Le jeune répondra, oui. Le messager lui dit, fais des efforts à leur rencontre. Dire, sois bon avec eux, sois à leur service. Hein? Mets-toi à leur service de la meilleure des façons. Obéis-leur dans l'obéissance à Allah. Voilà pourquoi le prophète l'a orienté, alayhi salatu wassalam. La bonté envers les parents est l'acte le plus méritoire après le monothéisme. Et l'acte le plus méritoire après le monothéisme. Dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud qui a dit, j'ai posé la question au messager, c'est quoi l'œuvre la mieux aimée d'Allah? Il m'a répondu, la prière à son œuvre, à son heure. Et la prière à son heure, c'est l'un des droits du monothéisme. C'est l'un des droits de la ilaha illallah. Il m'a répondu, la prière à son heure. Et j'ai dit, et quoi encore? Et il a dit, la bonté envers les parents. Et j'ai dit, et quoi encore? Il a dit, le combat sur le sentier d'Allah. Médite à l'islam. Comment le messager d'Allah a mis la bonté avec les parents en deuxième position après la prière à l'heure? Et avant le combat sur le sentier d'Allah. C'est pour cela que les savants disent que la bonté et l'obéissance aux parents dans l'obéissance à Allah passent avant le combat sur le sentier d'Allah. Hein? Et regarde ces insensés qui répondent à l'appel de Daesh ou d'autres et qui ne prennent pas l'autorisation des parents, qui ne sont soucis pas de l'autorisation du parent. De toute façon, comment ils peuvent s'en soucier alors que leur leader ont décrété la mécréance de leurs parents, l'ayadan billah. Hein? Et regarde où est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a placé l'obéissance des parents et la bonté avec les parents. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui a dit, un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a demandé l'autorisation de partir pour le combat sur le sentier d'Allah. Le prophète l'interrogea, est-ce que tes parents sont vivants? L'homme a dit oui. Le messager lui a dit, fais des efforts envers eux et sois bon avec eux. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et toujours selon Amr ibn al-As, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, un homme est venu voir le prophète. Il lui a dit, je te fais l'allégeance pour la hijra et le combat sur le sentier d'Allah, volant avec la récompense d'Allah. Le messager lui a dit, est-ce que l'un de tes parents est vivant? L'homme lui a répondu, oui. Le messager lui a dit, retourne vers eux et sois pour eux un bon compagnon. Il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je te fais l'allégeance pour la hijra. Et pour le combat sur le sentier d'Allah, je cherche avec la satisfaction d'Allah, les récompenses chez Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as tes parents ou l'un d'eux est vivant? Il lui a dit oui. Il lui a dit, retourne et sois un bon compagnon avec eux. Dire, sois bon avec eux. Sois bon envers eux. Donc, la bienfaisance envers les parents, c'est une cause pour avoir la satisfaction d'Allah. Et nous sommes à une époque où la désobéissance aux parents et les mauvais comportements avec les parents est propagée. Wallahu musta'an. Regarde dans ce milieu dans lequel vous vivez, dans cette société laïque où l'éducation est basée sur la laïcité, sur l'individualisme, sur l'égoïsme. Regarde combien de parents musulmans souffrent des mauvaises manières des enfants envers eux. Combien de parents souffrent de la désobéissance de leurs enfants? Hein? Et ça, ça fait partie des influences néfastes sur les enfants quand ils sont éduqués dans un milieu qui est entouré que de mécréance. Le messager dans le hadith, rapporté dans Sahih al-Jami', a dit l'agrément du serviteur par Allah, c'est-à-dire pour que un soumis, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'un soumis, il passe par l'agrément des parents à ce soumis. Il passe par le fait que ses parents soient satisfaits de lui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce soumis passe par la malédiction des parents. Si les parents ont maudit l'enfant, il en sera de même chez Allah. Donc, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'obtient, découle de la satisfaction des parents. Et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la même chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il hadith, et dans l'autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua. Un dua contre une personne qui est géancée avec les parents. Il a dit, Rahima anfu abdin. Ça veut dire, il sera rabaissé, humilié, méprisé. Il sera rabaissé, humilié, méprisé. Qui, dont les deux parents ont atteint un certain âge, ou l'un d'eux, et que la personne n'est pas rentrée au paradis. C'est-à-dire, ses parents ont atteint un certain âge auprès de lui, ou l'un d'eux. Mais il n'a pas gagné le paradis en étant à leur service, en étant à bon avec eux. Ben, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua contre celui-là pour qu'il soit rabaissé, humilié et méprisé. D'où l'ordre d'Allah Azza wa Jal d'être bon avec les parents. Qala Azza wa Jal, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous avons ordonné à l'être humain d'être bienfaisant avec les parents. Qala Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, وَجَاءَ الدِّينُ الْإِسْلَامِ يَأْمُرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَهُمُ الْأَقَارِبُ وَيَنْهَى عَنِ الْقَطِيعَةِ. Dit rahmatullah alayh, la religion musulmane ordonne d'entretenir les liens de parenté et interdit le fait de les rompre. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Il dit dans la traduction approximative du sens du verset, préservez les droits d'Allah. Préservez les droits d'Allah que vous imploriez. Préservez les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et il est rapporté chez l'imam Bukhari et chez l'imam Muslim, selon Jubair ibn Mat'am, radiyallahu anhu, le prophète a dit, ne rentrera pas au paradis quelqu'un qui a coupé le lien de sang. Ne rentrera pas au paradis quelqu'un qui a coupé le lien de sang. Tu imagines? Et des fois, les liens de sang entre les familles sont coupés à cause de futilité, à cause de sang futile, à cause des choses de ce bas monde. وقال رحمه الله والدين الإسلامي يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه. Il a dit رحمه الله عليه, la religion musulmane ordonne le bon voisinage et interdit de causer du tort à son voisin. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب الذي ليس من قرابتك ولكل منهما حق. Il est dit dans le verset cité ici dans la traduction approximative du sens du verset, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos parents, envers les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, c'est-à-dire celui avec lequel tu as un lien de sang, et le voisin avec lequel vous n'avez pas de lien de sang. La même chose. Et rentre dedans aussi le voisin mécréant que tu as. Il a son droit de voisinage. Le voisin musulman, il a le droit de l'islam plus le droit du voisinage. Le voisin proche, il a le droit de l'islam, s'il est musulman, et il a le droit du voisinage, hein, et le droit du lien de sang. Il en a trois. Le mécréant, il a le voisin de, quand il est ton voisin, il a le droit du voisinage. Et tu ne dois pas, lui causer du tort, ni que tes enfants lui causent du tort, et ainsi de suite. Imam Muslim, rahimahullah, rapporte que le messager d'Allah a dit, celui qui croit en Allah, et en le jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Qu'il soit bon avec son voisin. Celui qui croit en Allah, et en le jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Et dans l'authentique du Tirmidhi, et dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, rahimahullah, le messager a dit, le meilleur des compagnons chez Allah, c'est celui qui est bon avec son ami, avec son compagnon. Et le meilleur des voisins pour Allah, c'est celui qui est bon avec son voisin. Le meilleur compagnon, chez Allah, c'est celui qui est bon avec celui qui l'a pris comme compagnon et comme ami. Et le meilleur des voisins, chez Allah, c'est celui qui est bon avec son voisin. Et il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Le hadith où le prophète a.s.w. a dit, celui qui croit en Allah et en l'au-delà ne doit pas causer du tort à son voisin. Celui qui croit en Allah et en l'au-delà ne doit pas causer du tort à son voisin. L'imam Muslim rapporte aussi le hadith où le prophète a.s.w. a dit, ne rentrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas épargné de son tort. Ne rentrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas épargné de son tort. Et il est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah qui a dit, voler dans la maison de son voisin, c'est pire que de voler dans 10 maisons des gens qui ne sont pas son voisin. Certes, le vol est un péché capital, mais le hadith prouve la place du voisin dans la religion musulmane. Tu sais que le prophète al-Islam a dit à un moment donné, Jibril est venu lui conseiller comment il faut être avec le voisin, et Jibril, Rasulullah a cru que il allait le faire du nombre des héritiers. Et toi qui vis au milieu des non-musulmans, tu as des voisins à droite non-musulmans, à gauche, devant toi, en haut, en bas, en face, de partout. Attention à leurs droits. Attention à leurs droits. Car le voisin, même s'il n'est pas musulman, tu ne dois pas lui causer du tort. Tu ne dois pas lui faire du mal. Tu dois préserver son droit et tu dois t'en acquitter et éduquer tes enfants à respecter le droit du voisin, qu'il soit musulman ou pas. Cheikh Rahmatullah Alayh a cité les nobles choses qu'ordonne l'islam, parmi lesquelles le fait d'être loyal, le fait de ne pas trahir, le fait d'honorer son engagement. Et regarde, frère en Allah, Azza wa Jal, comment les insensés transgressent ces trois nobles qualités en prétendant la défense de l'islam, en prétendant le jihad ou autre. Tous ces assassinats qui ont été commis ici, ailleurs, toutes ces bombes posées, ici et ailleurs, au milieu des nations civiles, dans ses actes, commis par ceux qui prétendent être musulmans et qui soi-disant font le combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a de la trahison, il y a de la perfidie, il y a de la déloyauté et autres mauvais actes. Regarde comment on arrive à déshonorer les engagements signés par les gouverneurs des pays d'origine. Quand l'un rentre dans ce pays, en Europe ou ailleurs, avec un visa, il y a des engagements pour avoir ce visa. Et des accords entre les pays. Quand la personne rentre dans ce pays, il a obtenu sa carte de résidence et ainsi de suite. Il y a des engagements. Et ces engagements, il faut les respecter n'importe comment. Quand on commence à faire n'importe quoi et à assassiner les innocents au nom de la religion, est-ce que là on a honoré les engagements? Abadan akhal islam. On a plutôt déshonoré les engagements pris par les gouverneurs de nos pays d'origine. Et ceci, en courant dans la voie des Khawarij et des Dawa'ish, et ainsi de suite. Et l'islam est une leçon de tout ça. L'islam est une leçon de ce genre de actes. L'islam, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonne toutes les bonnes mœurs et interdit toutes les mœurs viles. Qala azza wa jal, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaroun. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Et sache, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, le rappel que j'ai fait là sur le fait de déshonorer les engagements des pays d'origine, ceci, ce n'est pas pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Ceci est une aqida, ceci c'est une religion, c'est quelque chose en laquelle les gens de la sunna croient et qu'ils la mettent en application. Parce que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à agir ainsi et à être juste. Et on n'a pas à transgresser les lois d'Allah et à se conformer, où que nous soyons, à la législation d'Allah et à se conformer au livre et à la sunna selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Fasse Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-Husna wa sifati al-Ula, an yurzuqna wa iyyakum al-fiqha fi al-deen. سلو سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من هذه البلاد الكافر أهلها أن يخرجنا منها سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.